Débat, Africa Radio, BBC Afrique. Présenté par Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'actualité sur nos deux radios partenaires. Et ma collègue Liliane Niacha est toujours en vacances, hein, mais rassurez-vous, elle sera de retour la semaine prochaine dans l'émission. Autre sommaire de cette édition, le grand dialogue national au Cameroun, initié par le président Paul Biya. Ce grand dialogue a conclu ses travaux ce vendredi. Que faut-il retenir de ces assises, dont l'objectif était de produire des solutions idoines à la résolution de la crise dite anglophone qui agite le pays depuis 3 ans. Nous en parlerons dans cette édition avec nos invités. Autre actualité, le processus électoral en Tunisie, un processus électoral qui se poursuit avec des législatives ce week-end et le second tour de la présidentielle prévu le 13 octobre prochain. Deux candidats en lice pour cette présidentielle, le juriste Kaïs Saïd et l'homme d'affaires Nabil Karoui, maintenu en détention, accusé de blanchiment et fraude fiscale. Analyse de cette situation singulière dans cette édition. Enfin, retour sur un coup de théâtre politico-judiciaire au Sénégal, la grâce accordée par le président Macky Sall dimanche dernier à l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, emprisonné depuis 2017 pour escroquerie sur des deniers publics. Désormais libre, quel sera l'agenda de celui qu'on avait présenté comme l'un des grands adversaires politiques du chef de l'État sénégalais? Nous en parlerons aussi dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin invité dans cette édition, au téléphone depuis Yaoundé, au Cameroun, Ali Sadio. Ali Sadio, bonjour.
Bonjour.
Lissa Diop, vous êtes la présidente du parti l'Alliance des Forces Progressistes, mouvement politique camerounais. Vous êtes diplômée en philosophie morale et politique, femme politique et leader d'opinion au Cameroun. Vous êtes par ailleurs la secrétaire générale de la plateforme pour la Nouvelle République. Vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Notre confrère invité dans cette édition, dans les studios BBC Afrique à Dakar, Charles Faye, journaliste, chroniqueur au groupe de presse Futur Média. Charles Faye, bonjour.
Bonjour Francis.
Merci d'être avec nous. Premier sujet donc, hein, le Cameroun, bilan du dialogue national, du grand dialogue national. Pendant 5 jours, hein, du lundi 30 septembre jusqu'à ce vendredi 4 octobre, il y avait plusieurs centaines de délégués et invités à plancher sur les voies et moyens de sortie de la crise, une crise qui secoue les deux provinces anglophones du pays depuis bientôt 3 ans. Et alors que plusieurs acteurs politiques et militants séparatistes ont choisi de boycotter ces assises initiées par le chef de l'État camerounais, quel bilan peut-on en tirer? Quel bilan peut-on tirer de cette réunion nationale qui s'est tenue sous la direction du Premier ministre Joseph Dion Nguté? Alors, première question pour vous, évidemment, Ali Sadio. Manifestement, vous aviez choisi, vous, dans un premier temps, de participer à ce grand dialogue avant de vous en retirer en déclarant que, je vous cite, hein, que ce grand dialogue n'est qu'un grand monologue hypocrite, fin de citation. Est-ce que vous pensez la même chose aujourd'hui à l'issue de ces assises?
Malheureusement, oui, je persiste à dire la même chose. Et pour cause, nous nous sommes rendus compte. D'abord, il faudrait rappeler que nous y avons cru, même si le discours annonciateur de ce grand dialogue national par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ne nous avait pas convaincus. Parce que dans sa posture, nous n'avions pas cru voir son discours de la sincérité. Cependant, parce que des milliers de Camerounais sont en train de mourir depuis 3 ans, nous avons accepte d'accorder le bénéfice du doute à ce dialogue.
D'abord, pourquoi vous soupçonniez l'insincérité du chef de l'État? Pourquoi pensiez-vous que dès le discours qu'il avait prononcé pour annoncer ce grand dialogue national, pourquoi dites-vous qu'il n'était pas sincère?
Si vous avez suivi le même discours que moi, celui de septembre, annonciateur de ce dialogue, vous avez dû noter dans la posture du président de la République qu'il était davantage dans une posture à charge, il faut le dire ainsi, contre tout le reste des Camerounais, défendant Mordicus et son armée et ses ministres successifs, ses gouvernements successifs et ses militants, et mettant donc en cause, c'était un réel réquisitoire contre la communauté anglophone et partant tout le peuple camerounais. Du moins, c'est la lecture que nous en avons faite.
C'est une lecture ou un ressenti, parce que
vous avez... C'est un, Prenez le comme vous voulez, mais moi, c'est la lecture que nous, à l'AFP, nous avions faite parce que il l'a dit, et je le cite, ni moi, ni mon gouvernement, il a fait égrener le chapel des choses qui nous ont déjà concédées aux anglophones et qui n'ont pas permis de résorber la crise anglophone. Il a relevé aussi les exactions commises par les séparatistes sans jamais évoquer une seule fois les exactions commises par l'armée. Or, vous et moi savons, si vous suivez cette crise depuis 3 ans, nous savons très bien que autant les séparatistes commettent des atrocités, autant l'armée camerounaise en commet. Et j'allais même vous dire que si vous mettez côte à côte le nombre de personnes qui tombent sur le front, ce sont les séparatistes, puisque la puissance de feu de l'armée camerounaise est largement supérieure à la puissance de feu des séparatistes qui, au commencement, n'avaient que des fusils de chasse. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence à voir apparaître des Kalachnikovs, mais au départ, ce n'était pas ça. Peut-être qu'il faudrait aussi restituer la juste chronologie en disant que, dès le départ, ses compatriotes anglophones avaient commencé leur marche avec des arbres de paix. Bon, je vais peut-être expliquer pour vos auditeurs. Les arbres de paix, c'est une espèce d'arbre ici chez nous dans les grass-fields que des gens utilisent pour des cérémonies où on voudrait que les cœurs soient apaisés.
C'est ça.
Alors, leur marche était accompagnée des arbres de paix. Tandis qu'en face, la soldatesse du régime n'avait pas hésité à tirer le premier coup de feu, non pas un coup de feu pour dissuader, mais un coup de feu pour tuer. Et ce fameux jour-là, en 2016, beaucoup sont tombés le 1er octobre. C'est ça la juste chronologie des faits.
Alors aujourd'hui, on en est bien loin, puisque aujourd'hui, le conflit...
Ils tiennent un discours à charge contre seulement une partie et ne reconnaissent pas, ne serait-ce qu'un début de reconnaissance de ce qu'il y a aussi eu des exactions de la part de notre armée.
D'accord. Alors pourtant, vous êtes allé à ces assises, hein. Vous avez quand même accepté d'y aller dans un premier temps avant de vous en retirer. Qu'est-ce que vous reprochiez exactement à ce grand débat national et la forme, le fond, l'agenda?
Alors, tout à la fois, hein, parce que sur la forme, je dois d'abord vous signaler que personnellement, moi de l'AFP, j'ai fait l'objet d'un incident. Il a fallu que je tienne bon pour finalement être reçu par M. le Premier ministre, non sans l'intervention d'un ministre du gouvernement, certainement parce que quelque part, l'opinion publique camerounaise et le gouvernement connaissent quelle est notre posture par rapport à cette crise-là. Mais ça, je ne voudrais pas qu'on s'attarde là-dessus. Concernant le dialogue proprement dit, après moult péripéties, nous y avons été effectivement invités. Nous avons pris part, et une fois dans la salle, lors du premier jour, lors de la cérémonie des travaux en plénière et de la cérémonie solennelle d'ouverture, nous avons rendu compte que M. le Premier ministre a pris sur lui de choisir unilatéralement et le bureau qui devait l'accompagner dans la présidence de ce dialogue national, et les 10 personnalités qui devaient prendre la parole. Et comme si ça ne suffisait pas, il avait déjà préalablement créé des commissions, les 8 commissions, et il y a affecté des thématiques qui lui semblait pertinente. Et comme si ça ne suffisait pas, il l'a nommé et les présidents, et les vice-présidents, et les rapporteurs des 10 commissions. Tant et si bien que nous autres, qui étions venus pour apporter un son de cloche mélioratif dans la recherche des voies de solutionnement, nous avions l'impression d'être dans une sorte de corset. Nous avons l'impression d'être des spectateurs. Alors nous avons tiré les conséquences qui s'imposaient et nous avons pris l'opinion publique nationale et internationale à témoin, nous nous sommes retirés.
Vous avez certainement reproché au président Paul Biya d'avoir défini les sujets à l'avance, les sujets à débattre lors de ce grand rendez-vous, en excluant d'ailleurs les questions, certaines questions, notamment celles portant sur le fédéralisme et la sécession. Mais Ali Sadio, il n'était pas question effectivement de débattre de la forme de l'État pendant ces assises, mais il semble qu'au fil des travaux, la question du fédéralisme s'est installée dans les débats. Est-ce que vous pensez que les esprits ont évolué sur cette question, sur la question de la forme de l'État au cours de ces assises?
Alors, je puis vous dire que, au-delà des invités au débat, si vous venez faire un sondage au Cameroun aujourd'hui, vous remarqueriez que les leaders d'opinion qui sont des libres penseurs,
oui.
Qui ne sont pas inféodés au parti au pouvoir,
oui.
ont beaucoup évolué et il y a de plus en plus de francophones qui sont partie prenante pour le fédéralisme. Et ils voudraient même qu'on étende ce fédéralisme-là aux 8 régions francophones. Il y en a qui plaident carrément pour un fédéralisme à 10 États pour que chaque entité régionale puisse être autonome et gérer ses propres affaires.
Oui.
Ça, c'est un fait. Maintenant, à l'intérieur, quand vous dites que le fédéralisme a quand même été évoqué, bien entendu, il ne pouvait qu'être évoqué, puisque là-dedans, il y avait quand même des protagonistes qui, pendant 3 ans, ont dit que la solution idoine pour régler cette crise, c'est le fédéralisme.
Oui.
Mais l'évoquant étant en même temps confiné dans une thématique dénommée décentralisation et développement rural, convenez avec moi que la commission avait déjà figé l'issue qui pourrait être la limite de l'issue qui pouvait être celle de résolution de d'une telle commission.
Oui.
Et je ne me suis pas trompée. Nous qui sommes passés, nous ne sommes pas trompés, puisque si vous regardez les résolutions de
oui.
la fameuse commission 8,
oui.
décentralisation de développement rural, il va de soi qu'on n'est pas sorti de la décentralisation.
Il est question d'ailleurs d'instituer. Il est question d'instituer un statut spécial.
Un ministère pour la décentralisation.
Oui.
Écoute.
On parle de statut spécial désormais pour ces régions anglophones. C'est l'une des propositions. Le mot fédéralisme, effectivement, n'est pas prononcé, n'est pas inscrit dans les résolutions, en tout cas pour ce qu'on en sait aujourd'hui, au moment où nous enregistrons cette émission. Est-ce que vous pensez que l'octroi d'un statut spécial, c'est un mot, on ne sait pas très bien ce que ça recouvre, un statut spécial à ces provinces, est-ce que vous pensez que cela peut constituer un compromis acceptable pour les deux parties en conflit?
Je veux bien y croire, mais permettez que je n'endorme pas mon intelligence. Permettez que je ne mette pas mon intelligence en congé. Je veux bien y croire pour la paix dans mon pays, mais j'ai quelques doutes.
C'est ça.
Il y a des doutes qui subsistent parce que dans la constitution camerounaise, ce terme « statut spécial » qui est prévu, possiblement pour certaines régions, le cas échéant, ressemble à une sorte de nébuleuse. Voyez-vous, dans un statut spécial, on peut mettre tout et rien à la fois.
C'est pour ça que vous parlez d'hypocrisie.
Selon les convenances, selon les convenances du régime, vous remarquerez que nous qui étions les tenants d'or, il faut se pencher sur la Constitution parce qu'il y a 4 fléaux majeurs qui minent la gouvernance dans notre pays et qui ont causé la guerre. Eh bien, nos 4 axes majeurs n'ont pas, pour ainsi dire, été abordés parce que le régime en place ne veut surtout pas qu'on touche à la Constitution. Et je vais vous citer une autre anecdote.
Oui.
Le sultan Bombon Djoya, qui est arrivé, qui était l'un des privilégiés à qui on a accordé la parole lors de la séance solennelle, a suggéré aussi une révision constitutionnelle pour limiter la limitation des mandats et puis l'élection présidentielle à 2 tours, etc., pour moderniser notre démocratie.
Oui.
Monsieur le Premier ministre a repris le sultan Bombon Djoya pour lui dire que il priait les uns et les autres de rester dans le canevas tel que prescrit par le président de la République. Alors, le président de la République a sa thèse depuis 3 ans, laquelle thèse et laquelle méthode ne nous ont pas conduit à la résolution de la crise. Nous avons notre vision à nous, et puis les deux visions telles que les décors étaient plantés, il n'y avait pas possibilité qu'on se rapproche vers un juste milieu consensuel.
Oui. Vous nous direz dans quelques instants, Alice Sadio, ce que vous proposez, vous, quel schéma de sortie de crise vous proposez, en tout cas en ce qui concerne l'Alliance des Forces Progressistes, l'AFP. On va écouter notre confrère Charles Faye, qui est à Dakar, dans la studio BBC Afrique. Un premier commentaire à ce stade, Charles Faye, sur cette actualité camerounaise, ce grand dialogue national pour tenter de sortir de cette crise que l'on qualifie d'anglophone.
Écoutez, Francis, je pense qu'on est revenu au début à une constitution quand même qui date de 1996, dans laquelle il est déjà question de décentralisation. Or, de 1993 2016 à aujourd'hui, il y a quand même 23 ans, ça veut dire qu'on n'a absolument rien fait dans ce cadre-là. Donc, c'est, en fait, c'est l'ironie du sort. L'histoire se rattrape, et donc, mais les politiciens et probablement le gouvernement en place devant une responsabilité historique, politique, institutionnelle et juridique qu'il n'a jamais assumée. Donc, ça veut dire que c'est une faillite que de revenir, de parler aujourd'hui de décentralisation. Ça, c'est pour le gouvernement. Par contre, cela montre bel et bien que les dispositions qui ont été prises permettent au Cameroun, dans un premier temps, à mon sens, d'avancer. Oui. Puisque, au début, quand on va vers ce genre de rencontres, on sait toujours qu'il y a un cadrage politique, juridique, institutionnel.
Justement, Charles, alors, quelle sera la validité des résolutions issues de ce dialogue national auxquelles n'ont pas participé plusieurs acteurs du conflit et aussi des acteurs de la vie politique? Il y a des séparatistes, évidemment, qui ont refusé d'y aller parce qu'ils considéraient que ce dialogue n'était pas adapté à la nature de cette crise. Et puis, il y a des acteurs politiques qui, évidemment, ont préféré, disons, s'en retirer parce qu'ils considéraient que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'ils y participent. Je vais prendre juste un exemple, un leader de l'opposition, Maurice Kamto, président du MRC, qui est toujours en prison, et condamné récemment. Et son parti a réclamé sa libération avant de participer à ce dialogue. Le SDF, grand parti de l'opposition également, s'il en est, qui disait, voilà, si la question du fédéralisme n'est pas posée, il n'est pas question qu'il y participe, etc. Et que vaudront donc ces résolutions si l'on sait qu'une partie des Camerounais en a été de cette manière exclu.
Oui, mais c'est justement cela. Ça veut dire qu'ils se sont fait, que Obia se fait prendre à son propre piège, puisqu'on revient sur une disposition et où lui-même se retrouve obligé de mettre en liberté tout le monde, de suspendre le process au niveau des tribunaux. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas faire autrement que de libérer tout le monde. Il ne peut pas faire autrement que d'ouvrir, parce que c'est une opportunité qui se présente enfin aussi bien à son gouvernement qu'au Cameroun, parce que sinon on va vers un conflit de plus en plus armé. Il est obligé aujourd'hui de faire des concessions. Et c'est ça que je dis, ça veut dire qu'on se retrouve à une disposition qui était prise en compte par la Constitution depuis 1996, que l'État n'a jamais, en tout cas, n'a jamais déployé, et encore moins les partis au pouvoir. Parce que quand j'entends parler, par exemple, Madame Sadio, je me dis, les gens restent fixés sur une vision, un paradigme qui est celui des concessions, alors qu'il ne s'agit pas de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle fédéralisme, mais je me rappelle l'avoir dit sur votre plateau, que la question serait au centre, mais bon, on savait très bien qu'on n'irait pas beaucoup plus loin. Maintenant, il est évident que qu'il s'agisse de tous les partis, qu'il s'agisse de toutes les parties, quand même dans un pays de 20 millions d'habitants, vous avez quand même 40%, ça veut dire 8 millions de Camerounais qui ont moins de 14 ans, oui. Je veux dire, il n'y a pas tellement de problème. Je veux dire, aujourd'hui, si nous posons le problème du point de vue politique par rapport à des paradigmes des partis politiques, on va vers un échec, parce que, tout simplement, ce dialogue n'était pas fait pour réussir de ce point de vue.
Allez-y.
Par contre, la décentralisation telle qu'elle a été déclinée, les statuts spéciaux tels qu'ils ont été déclinés, oui, permettent à tout le monde de pouvoir se retrouver autour de ces questions et de voir comment on peut partir avec des rétablissements, des ponctions au niveau du budget national rétabli par rapport aux différentes régions, oui, qui pourraient permettre au Cameroun et voire même à beaucoup d'autres pays de revoir leur politique et de leur stratégie dans les différents pays africains.
Il faut dire qu'en toile de fond quand même de ce dialogue national, il y avait toujours des combats entre des militants sécessionnistes et l'armée nationale. On voit bien que ce conflit est en train de prendre les allures d'une guerre civile. Et ce dialogue, manifestement, n'a pas apaisé ce conflit.
Absolument. Parce qu'au début, il n'est pas inclusif. À partir du moment où tout le monde ne participe pas, à partir du moment où on a priorisé beaucoup plus les personnes alors que c'était des systèmes qu'il fallait mettre en place, voir les systèmes, les opposer afin de voir comment on pouvait venir vers un autre système beaucoup plus inclusif, ça n'a pas été le cas. Donc je pense que Paul Biya, tout le monde savait que dès le début qu'il avait un ancrage par rapport à ce qu'il voulait faire. Et le cadrage mis en place ne favorisait pas, en tout cas, de larges discussions avec tout le monde, avec toutes les parties prenantes, sauf que, il arrive sur quand même la décentralisation avec des statuts spéciaux. Ça veut dire que c'est quelque chose d'assez intéressant et que les Camerounais peuvent s'exprimer, ont une opportunité, à mon sens, qu'il faut saisir.
Merci. On va marquer une pause, hein, et on va continuer de parler de ce grand dialogue national au Cameroun avec notre grand témoin invité, Alice Sadio, présidente de l'AFP, c'est l'Alliance des Forces Progressistes, mouvement politique camerounais. Également avec vous, Charles Faye. Vous êtes avec nous depuis Dakar, journaliste chroniqueur au groupe Presse Futur Média. On marque tout de suite, la pause et on revient juste après pour la suite du débat BBC Afrique, Africa Radio. À tout de suite.
Le débat Africa Radio, BBC Afrique, présenté par Francis Laloupo. Le débat.
Avec notre grand témoin invité depuis Yaoundé au téléphone, Alice Sadio, présidente de l'AFP, l'Alliance des Forces Progressistes, mouvement politique camerounais, et notre confrère invité depuis les studios de BBC Afrique à Dakar, Charles Faye, journaliste, chroniqueur au groupe de presse Futur Média, groupe de presse camerounais, bien sûr, pas camerounais, sénégalais, pardonnez-moi. Alice Sadio, on va continuer d'en parler, hein, de cette actualité camerounaise, ce grand dialogue national initié par le chef de l'État camerounais. Alors, il y a eu une annonce surprise, hein, qui a été faite ce jeudi en pleine séance plénière de ce grand dialogue. C'est la libération de 333 personnes poursuivies dans le cadre de cette crise dite anglophone. Un coup de théâtre en pleine session plénière, hein, de ce grand dialogue national. Comment vous analysez, je dirais, ce geste du pouvoir ?
D'abord, nous à l'AFP, nous accueillons favorablement cette décision parce que elle fait partie de l'une des revendications que nous faisons depuis, notamment la libération et des prisonniers interpellés dans le cadre de la crise anglophone, oui, et les prisonniers interpellés dans le cadre de la crise post-électorale, histoire de détendre un peu l'atmosphère, voyez-vous, oui, pour que ce dialogue national soit finalement un grand rendez-vous de convivialité, de pardon, de réconciliation et de projection vers l'avenir. Mmh. Donc nous ne pouvons qu'accueillir favorablement cette décision. Oui. Seulement nous notons qu'elle est insuffisante. Oui. Elle est insuffisante pour au moins trois raisons. La première raison, c'est qu'il manque à l'appel quand même les personnes emprisonnées dans le cadre de la crise post-électorale, oui, qui sont, il faut le préciser, aussi des acteurs politiques, oui, qui auraient dû être dans ce dialogue. J'imagine qu'ils ont boudé le dialogue parce que l'essentiel de leur leadership, de leur cadre, sont en prison. Oui. Dont la nation tout entière n'était pas au palais des congrès.
C'est ça.
Deuxième chose, deuxième exception, ces prisonniers-là, je ne sais pas si cela concerne, on attend de voir la liste avant de comprendre, parce que si c'est des gens qui ont été interpellés parce qu'ils ont partagé un SMS dans le cadre de la crise anglophone, oui, parce qu'ils auraient porté un t-shirt ou parce qu'ils auraient fait un post Facebook disant « je soutiens le fédéralisme », c'est des délits mineurs. Mmh. Alors, il reste les grands interlocuteurs avec qui nous aimerions pouvoir discuter pour amener la paix au Cameroun. J'ai nommé des personnes condamnées à vie telles que Sissoko Ayew Tabe et Ko. Oui.
Tabe qui est un leader séparatiste condamné récemment à perpétuité.
Voilà, à moins de vouloir faire de la politique de l'autruche, excusez-moi, si on n'entend pas une phase de médiation et de négociation, oui, avec les donneurs d'ordre que sont ces personnes condamnées à vie, je crains.
Vous demandez une amnistie générale
du fond de leur prison.
Vous demandez une amnistie générale?
Une amnistie générale parce que si je m'attache beaucoup à la chronologie de ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone. Au commencement, ces compatriotes demandaient le fédéralisme. Après, ils ont basculé dans une transe meurtrière et c'est devenu la guerre. Mais on ne peut pas perdre de vue qu'au commencement, je vais le répéter jusqu'à la fin de votre émission, ils portaient des arbres de paix. Ils portaient des arbres de paix. Ce serait injuste de ne pas restituer, oui, cette vérité chronologique. Donc, tout le monde est tombé dans cette transe meurtrière. Les soldats ont perpétré des exactions. Oui. Et même plus, ils ont tué plus parce que les soldats tuent plus puisque la puissance de feu est supérieure.
Est-ce que vous pensez que la revendication sécessionniste est aujourd'hui irréversible?
La revendication sécessionniste est réversible. Je veux dire que si les solutions idoines proposées dans une, oui, démarche assez diplomatiques sont menées, je vous dis la main sur le cœur que moi-même, je prendrais mon bâton de pèlerin et je prendrais le risque d'aller dans le théâtre des opérations pour me mettre à genoux et plaider pour que mes compatriotes reviennent à la raison. Je refuse de croire que ceux-là, qui vaquaient à leurs occupations comme vous et moi hier, soient devenus des fous alliés. C'est des gens à qui on peut parler. Et il y a eu des griefs, des blessures de part et d'autre, et il faut passer ces blessures-là. Et pour les penser, continuer à faire la politique de l'autruche, à nier le problème et dire qu'il n'y a pas un problème anglophone, on leur a réglé des petits saupoudrages, des petites mesurettes corporatistes, alors qu'on sait que le problème de fond est, il est politique, il est systémique.
La question est politique, dites-vous, Alice Adio. Je vous interromps un instant parce que on entend dire que alors plusieurs acteurs de l'opposition qui disent que Paul Biya fait partie du problème qui a entraîné cette crise. Est-ce que vous pensez que derrière la revendication séparatiste se trouve avant tout une contestation du régime ?
Oui, il y a un peu de cela aussi. Il y a un peu de cela. Je crois avoir entendu que vous êtes sénégalais. Vous savez.
Ah non, je ne suis pas sénégalais, mais ce n'est pas grave.
Mais ah, d'accord.
Je pourrais alors, l'être, mais bon.
Je peux comprendre que dans l'arsenal des gens qui sont en poste pour la réalisation de cette émission, il y avait des frères.
C'est une émission panafricaine, allez-y. C'est une radio panafricaine.
Alors, je vais. Permettez-moi que je prenne comme tremplin un pays comme le Sénégal. Pour faire une sorte de comparatif, vous conviendrez avec moi que lorsqu'on a été dirigé par le même système pendant près de 40 ans, à un moment donné, le peuple suffoque. À un moment donné, il y a une sorte de lassitude. Donc, je suis d'accord avec vous, effectivement, sur le terrain, il y a comme cette lassitude-là, cet agacement-là, et cet énervement qui fait que derrière, sous la cendre de la crise anglophone, il y a aussi un feu qu'on appelle un besoin d'alternance.
Je me tourne vers un autre confrère. Qui est sénégalais ? Le sénégalais de l'émission, Charles Faye.
Oui.
Charles Faye. Alors, il faut quand même rappeler, alors, cette fois sans rire, hein, que voilà, cette crise a déjà fait 3000 morts, 500 000 déplacés, 40 000 réfugiés. Est-ce que vous. Que dites-vous ? Alors, quand on entend dire justement que derrière cette crise, il y a une contestation du régime qui s'est déplacée en quelque sorte sur le terrain séparatiste ?
Mais c'est clair qu'il y a une contestation du régime. On peut pas, je veux dire, elle a raison, Madame Sadio, de dire que pendant 40 ans, après, on a envie de voir autre chose, de voir notre programme. Et surtout quand le pari des grands ensembles est raté, et c'est peut-être ça le grand malheur du Cameroun, c'est d'avoir, au bout de ces 40 ans, être arrivé, même avant les 40 ans, être arrivé à des replis identitaires constatés, parce que tout simplement, il y a eu problème de gouvernance, il y a eu problème de redistribution des richesses entre les différentes régions du pays, et il y a eu surtout un contexte historique qui n'a jamais été pris en compte, quand on sait que quand même dans les années 70 qu'on va supprimer le fédéralisme pour revenir à la République. Ça veut dire que le Cameroun, historiquement, est quand même convié à devant sa propre histoire et à y faire face. Par contre, aujourd'hui, pour moi, c'est une opportunité que je trouve formidable qui est présentée aujourd'hui au peuple camerounais, à l'intelligentsia camerounaise et au président Biya de savoir que bon, au soir de sa vie, il devrait pouvoir proposer quelque chose de beaucoup plus intéressant aux Camerounais qu'un exercice pouvoiriste interminable et, je veux dire, infini. Quoi.
Une avant-dernière question, Alice Sadio, sur cette actualité. Hein. Quelle sera, selon vous, donc, la validité de ces résolutions ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'au lendemain de ce grand dialogue national, le pouvoir, donc, disons, légalise en quelque sorte ces résolutions et en fasse la seule réponse à tous ceux qui s'écarteraient du cadre de ces résolutions?
Alors, je ne voudrais pas être plus royaliste que le roi. Ceux qui sont en train de payer un lourd tribut vont nous dire dans les prochains jours s'ils sont satisfaits ou pas. Mais je me permets de vous faire la lecture qui est la nôtre et qui est largement partagée ici au Cameroun, à savoir que on ne peut pas, face à une crise aussi profonde, aussi qui a sanglante, croit que par un tour de passe-passe politicien où on viendrait à proposer le fédéralisme à un État qui est j'allais dire la décentralisation comme solution magique, comme quand on a fait un État qui est déjà censé être décentralisé avec tout un ministère chargé de la décentralisation. J'ai quelques réserves. J'émets quelques réserves pour la simple et bonne raison que voyez-vous, le Cameroun, ce que la décentralisation vise à résoudre, c'est à résoudre le problème de l'implication des collectivités territoriales décentralisées dans la gestion et l'organisation de leurs affaires immédiates dans les communes. Ce que le fédéralisme vise à résoudre, c'est la résolution, j'allais dire la réparation d'un dol historique, d'une injustice, d'un contentieux historique que le Cameroun traîne depuis son indépendance. Vous vous souvenez que lors des accords de Fumban, les Camerounais des deux rues du Mungo, lorsqu'ils s'étaient retrouvés, ils avaient accepté parce que ceux-là avaient la liberté d'être indépendants en rejoignant le Nigeria ou alors le Cameroun. Alors, ils ont choisi le Cameroun, tandis d'ailleurs que le Northern Cameroun choisissait le Nigeria, puisqu'il y avait le Northern Cameroun et le Southern. Les Southern ont choisi le Cameroun, mais à condition qu'un tel retour à la réunification se fonde sur le modèle fédéral. Pourquoi le modèle fédéral? Parce que ils ont hérité d'un héritage colonial britannique, anglo-saxon, indirect rule, avec tout ce que cela comporte, common law, etc., système éducatif différent, tandis que nous, les 8 autres régions, nous avons hérité de la colonisation, j'allais dire, franco-jacobine, centralisée, un peu trop centralisée, ou parfois sur le modèle de, on va dire, de la décentralisation. Donc c'est de ça qu'il est question. Et le pouvoir en place aujourd'hui est de l'école du modèle franco-jacobin. Et il n'entend pas, lorsqu'on est issu de cette école-là, c'est vrai qu'on a quelques difficultés, il faut l'avouer, à admettre qu'il y ait un partage de pouvoir du point de vue horizontal. Parce que qui dit État fédéral dit des États fédérés avec qui le pouvoir fédéral partage un certain nombre de pouvoirs. C'est ce que les anglophones revendiquent. Et je ne vois pas comment la décentralisation pourrait résorber ce problème qui est, comme je viens de vous le dire, qui tient dont les racines remontent à notre histoire, et je vois pas comment la décentralisation pourrait nous aider à résoudre ce problème. En revanche, nous à l'AFP, nous pensons que la décentralisation qui existe déjà dans les textes camerounais et le fédéralisme sont parfaitement compatibles.
Très bien.
C'est-à-dire que on pourrait pas, et c'est d'ailleurs ce que les anglophones demandaient au début de cette crise, avant que les séparatistes fassent aux arrestations et aux tueries, ne prennent les devants.
On va passer à un deuxième sujet, Ali Sadio. On entend bien que finalement votre réponse renvoie encore une fois à la question de la forme de l'État et que vous considérez...
Tout à fait.
Voilà, c'est ça. Vous considérez en tout cas que cette question n'a pas été au centre, au cœur même de ce grand dialogue national. On l'aura bien compris. Pardonnez-moi, c'est le chronomètre qui m'impose de vous interrompre et de passer à un deuxième sujet. À tout de suite.
Le débat Africa Radio, BBC Afrique.
Avec Ali Sadio, notre grand témoin, présidente de l'AFP, l'Alliance des Forces Progressistes, mouvement politique camerounais, et notre confrère invité, Charles Faye, journaliste, chroniqueur au groupe de presse Futur Média. Nous allons parler de la Tunisie à présent. La Tunisie face à un processus électoral inédit. Ce dimanche 6 octobre, les électeurs tunisiens se rendront aux urnes pour élire leurs députés. Un scrutin majeur qui devrait confirmer le recul des grands partis de gouvernement. Mais un scrutin un peu éclipsé par le second tour de la présidentielle qui opposera le 13 octobre prochain le juriste et universitaire Kaïs Saïed, à l'homme d'affaires et magnat de médias Nabil Karoui, incarcéré depuis août dernier et accusé de blanchiment et fraude fiscale. Toutes les demandes de libération ayant été infructueuses, Nabil Karoui devrait faire campagne depuis la prison, comme ce fut le cas d'ailleurs lors du premier tour du scrutin, une situation inédite et un imbroglio judiciaire. Alors, je vais me tourner vers vous, Charles Faye. D'abord, il faut peut-être dire quelques mots sur ces législatives qui se tiennent ce dimanche 6 octobre. Alors, quel est le décor? 7 millions d'électeurs, deuxième scrutin législatif depuis l'adoption d'une nouvelle constitution en 2014, plus de 1500 listes et quelques 15 000 candidats briguant les 217 sièges de l'Assemblée des représentants du peuple. Les grands partis de gouvernement, Ennahda et puis Nida Tounes, en plein recul, des législatives qui pourraient donc bouleverser le paysage politique du pays. Très rapidement, malgré ce tableau, Charles Faye, comment vous expliquez que ces élections suscitent si peu de commentaires ?
Si peu, parce que tout simplement, les Tunisiens ne savent pas à quel député se fier. Quand vous avez mis une liste de 1500 listes, 15 000 candidats pour 217 sièges, que vous ne connaissez pas forcément, parce que tout simplement, vous avez un autre souci qui va au-delà même de cette représentation législative, qui on sait souvent est beaucoup plus un cadre d'applaudimètre qu'autre chose. Le souci des Tunisiens, bien entendu, c'est la présidentielle, parce que c'est très 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 lourd de considération, de charges peut-être même négatif pour tout le pays.
Passionnel en tout cas pour l'instant.
Passionnel, pour le moment passionnel, oui. Parce que bon voilà, on sait que c'est pas évident pour l'un des candidats. Alors donc naturellement, je pense que la présidentielle prend le dessus sur ces législatives qui, un peu partout ailleurs, vous le savez en Afrique, n'est qu'un cadre de plus pour un pouvoir pour l'exécutif.
Alors, Ali Sadio, parlons donc de cette présidentielle tunisienne. Deux candidats pour le second tour, le juriste Kaïs Saïed et l'homme d'affaires Nabil Karoui, toujours en détention. Alors évidemment, tous les projecteurs sont braqués, si j'ose dire, sur cette prison. Quelle serait la validité des résultats si Nabil Karoui était maintenu en détention jusqu'au bout ? Parce qu'il est, il a une chance sur deux, logiquement, de gagner l'élection.
Justement, ce sera soit lui, Nabil Karoui, ou alors son challenger, Kaïs Saïed, qui le devance d'une...
Ali Sadio, parlez bien dans le combiné, on ne vous entend pas bien, s'il vous plaît.
Alors, je disais tantôt que, justement, ce sera soit Kaïs Saïed ou alors Nabil Karoui, puisque nous sommes rendus au deuxième tour. Alors, c'est quand même un précédent. Cette élection tunisienne présidentielle va constituer un précédent intéressant dans l'exercice de la démocratie participative et le débat certainement va s'ouvrir sur la prééminence, qu'est-ce qu'il y a dans le rapport entre la démocratie et la gouvernance et la liberté la liberté du pouvoir judiciaire.
C'est
parce
ça.
Que on a un candidat que le peuple, qui est le souverain, qui a toujours raison, comme l'a dit un penseur, même quand il a tort, vient d'accorder à quelqu'un que le système a jugé qu'il fallait qu'il se trouve en prison, quand même 15,7% de suffrage.
Oui.
Donc, c'est là un débat intéressant. Nous attendons de voir ce qui va en sortir. Mais si je peux me permettre, c'est davantage le corps social tunisien qui donnera l'issue. Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il remporte l'élection.
Oui.
Est-ce qu'il va sortir de prison ?
Oui.
Est-ce qu'on va le sortir de prison immédiatement pour la présidence de la République ou est-ce que ces élections seront invalidées ?
Alors légalement, rien n'est prévu pour ça, justement.
Sera trompé.
C'est un imbroglio judiciaire tout à fait inédit pour la Tunisie, oui.
C'est pour ça que je dis que c'est un précédent intéressant.
C'est ça.
Pourquoi n'a-t-il d'ailleurs, ne jouit-il d'ailleurs pas de la présomption d'innocence,
parce
que je crois savoir que il est juste
inculpé.
Prévenu. Oui, inculpé pour le moment et pas encore condamné. Alors, pourquoi est-ce qu'un candidat qui jouit quand même d'une relative cote de popularité d'environ 16% auprès des Tunisiens, pourquoi une telle personnalité ne jouirait pas, ne bénéficierait pas d'une présomption d'innocence à un moment critique, une période charnière où le corps social est appelé à désigner qui il souhaite, à qui il souhaite confier son destin. Telles sont les questions qui me viennent à l'esprit.
Ce sont les vraies questions, Alice Adio, hein, parce que voilà, la commission électorale tunisienne, l'instance supérieure indépendante pour les élections, l'ISI, hein, craint d'ailleurs à la fois une contestation post-électorale et ça c'est plus important, l'invalidation des résultats par le tribunal administratif pour non-respect de la loi qui stipule l'égalité des chances entre les candidats. On voit bien que Nabil Karoui aura fait campagne depuis sa prison, donc n'aura pas bénéficié de cette égalité des chances entre candidats. Charles Faye, est-ce qu'on s'achemine, très rapidement, dites-nous, hein, est-ce qu'on s'achemine vers des lendemains d'élections difficiles en Tunisie ?
Mais imaginez un seul instant, imaginons que ce soit que les Tunisiens choisissent Karoui et c'en est fini. Ça veut dire qu'on se retrouve dans un système glauque par rapport à une revendication populaire. Je pense qu'aujourd'hui, la Tunisie, oui, ça fait rire, mais il ne faudrait pas en pleurer au lendemain de la présidentielle.
Ah oui, ça c'est vrai, effectivement, c'est pas si drôle que ça d'ailleurs, parce que pour ne rien arranger au cas de Nabil Karoui, on a appris hier la publication par les autorités américaines d'un contrat de lobbying en faveur du candidat, en sa faveur, contrat exécuté par une société de consultants politiques dénommée Dickens & Madison. Et c'est un cabinet installé au Canada. Et l'objet du contrat, c'est faire du lobbying aux États-Unis, en Russie, à l'ONU, afin d'obtenir la présidence de la République tunisienne pour Nabil Karoui. Alors le problème n'est pas le contrat en soi, mais le montant de la prestation qui s'élève à 1 million de dollars, ce qui dépasse largement le seuil des dépenses de campagne autorisées par la loi tunisienne. Voilà, qui fait encore débat, évidemment, à la veille de cette présidentielle. Une information, évidemment, qui alourdit un peu plus encore le dossier Nabil Karoui. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus, puisque le temps passe très vite. On va passer à un troisième sujet. On vient de parler de quelqu'un qui est en prison et qui fait campagne en prison. On va parler de quelqu'un qui sort, lui, de prison. Charles Faye, vous le savez bien, hein. Retour sur ce coup de théâtre politico-judiciaire, la grâce accordée par le président Macky Sall dimanche dernier à l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, emprisonné depuis 2017 pour escroquerie sur des deniers publics. Alors, Charles Faye, rapidement, grâce présidentielle, mais non pas une amnistie. Quel sera, selon vous, l'impact de cette mesure de grâce, hein, sur l'avenir politique de Khalifa Sall ?
Mais tant qu'il ne sera pas amnistié, il ne pourra absolument rien faire. Je veux dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'il pourrait aller à l'abordage de l'appareil du PAES, son parti politique. Mmh. Essayer aussi d'aller grimper un peu chez tous les autres. Mais il est évident qu'il a une épée de Damoclès sur sa tête qui se trouve être l'amnistie que devra lui accorder le président de la République. Une amnistie générale, parce qu'il y a un autre candidat politique peut-être qui pourrait être concerné, qui se trouve être Karim Ouad.
Oui. Alors pourquoi cette grâce intervient maintenant ?
Alors je pense que c'est un énorme prétexte, à mon sens. Mon ressenti, c'est que bon, voilà, le président de la République était quand même assez à l'étroit depuis sa réélection, a profité justement de cette aubaine offerte par l'inauguration d'une mosquée, de la mosquée Masalikul Jinan des Mourides, et donc a profité de cet appel du khalife général des Mourides, justement, et a sauté sur l'occasion, libérant et en attendant de revoir son agenda politique dans une situation économique, politique, sociale, assez compliquée pour lui.
Et on a assisté d'ailleurs on a vu cette image très affectueuse entre Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Ouad, hein, tous deux étaient plutôt en brouille, hein, depuis quelques années, depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Est-ce que cette image a marqué fortement l'opinion sénégalaise ou pas ?
Je pense que l'opinion sénégalaise n'est pas dupe. Hein. C'est vrai qu'il y a cette belle photo. Les Sénégalais l'attendent quand même, compte tenu du fait que Abdoulaye Wade n'a plus 20 ans. Et c'est une belle photo pour la postérité aussi. Hein. Mmh. Pour Macky Sall, ce n'est pas si mal que ça. Mais non, les Sénégalais attendent d'être édifiés. Parce que quand même, Karim Ouad, qui avait été arrêté, l'a été pour des détournements également, et estimé à des centaines de milliards de francs CFA. Oui. Donc, va-t-on passer pour perdre et profit tout ça ? Je ne pense pas que les Sénégalais soient prêt à accepter un certain nombre de choses. Mmh. Non, je pense que les Sénégalais sont contents de voir effectivement les deux hommes fumer le calumet de la paix, mais peut-être sans plus.
Sans plus. Donc, sans plus. Pour vous, il ne s'agit pas, du début d'un processus de réconciliation entre le pouvoir et le camp du PDS, le parti de Ouad.
Vous savez, les Sénégalais, si, mais... Les Sénégalais sont beaucoup plus, plus mûrs que ça aujourd'hui, quand même. Il y a certaines réponses qui sont d'ordre social, économique, politique, certainement aussi, qu'ils attendent. Et de ce point de vue, il y a une situation globale qui n'est pas assez intéressante et sur laquelle ils attendent le président de la République. C'est vrai maintenant qu'on aille vers une accalmie, mais pour eux, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est ailleurs. On a parlé d'un dialogue social, comme ailleurs, à partir du mois de juillet au Sénégal, mais ça n'a fait bouger personne. Les Sénégalais attendent et attendent le président sur d'autres questions qui sont sociales et économiques.
La question est la question sur laquelle on attend le président. Parce qu'il y a ceux qui disent désormais, finalement, ce geste ne fait que renforcer l'image d'un président autoritaire, voire autocrate, qui aurait donc droit de vie et de mort sur ses concitoyens, et qui déciderait, quand bon lui semble, d'emprisonner ou de gracier qui lui plaît.
Oui, mais c'est une image aussi qui montre combien il est esselé et qu'il ne peut plus faire. L'homme tout puissant, qui pouvait faire comme bon lui semble, arrêter qui il voulait par rapport à un agenda politique assez personnalisé, se rend compte aujourd'hui qu'il est tout seul et qu'il ne peut pas faire autrement. Et n'oublions pas qu'il est quand même dans un cas de figure assez complexe pour lui et pour tout le Sénégal. Pour la première fois, on a un président qui ne se représente pas. Donc il va falloir préparer l'après Macky Sall, avec qui, avec quel successeur qui pourrait vraiment le laisser vivre, lui et sa famille, et peut-être les siennes, tranquillement, après 2024. Il y a autant de questions. Il y a la question du pétrole, il y a la question du gaz. Je veux dire qu'il ne faut pas écarter aussi dans toute cette affaire politico-économique aussi.
Vous voulez dire que cette grâce, c'est une manière pour le président Macky Sall de ménager son propre avenir?
Absolument.
La présidence.
La vie après la présidence, parce que nous sommes déjà, nous sommes à 5 ans maintenant, moins de 5 ans de la présidentielle. Il va falloir qu'il prépare l'après-Macky. Et pour le faire, il va falloir peut-être avoir des alliés, renégocier avec certains, quitte à aller à la réconciliation, et peut-être isoler un certain Ousmane Sonko, qui est l'un des politiques de l'opposition, l'opposant le plus en vue au Sénégal aujourd'hui. Et donc, c'est celui-là même, peut-être, qui, avec cette libération de Khalifa Sall, voire l'amnistie, est celui, peut-être, qui en souffrirait le plus. Parce que, quand on voit comment sont arrivés au pouvoir Macky Sall, qui n'était pas attendu, Abdou Diouf, qui n'était pas attendu, et probablement aussi Khalifa Sall, qui pourrait jouir peut-être de toute cette misère entre griffes qu'il aura vécu, comme certains d'autres. Mais il y a une redistribution des cartes qui me semble assez intéressante pour lui et défavorable à Ousmane Sonko, ce qui n'est pas pour déplaire le président Macky Sall.
Avant d'écouter Ali Sadio sur cette actualité, Charles Faye, pour vous, pour l'instant, vous ne percevez pas un agenda politique précis pour Khalifa Sall?
Il devrait, je pense qu'il... je veux dire, il y a la bataille de l'appareil du PS, il va falloir aller à l'abordage depuis le décès quand même de son chef charismatique, Ousmane Tanordjian. Donc il y a tout un travail qui va se faire, en allant d'abord dans les différentes confréries, remercier tout le monde. Donc le travail de terrain va se faire tout de suite. Mais il y a cette amnistie qui est essentielle pour son avenir politique.
On n'en est pas là pour l'instant. Ali Sadio, un commentaire sur cette actualité sénégalaise, dans un pays où l'alternance au sommet de l'État fonctionne plutôt.
Oui, je dirais dans un premier temps que le président Macky Sall joue bien de la stratégie du bâton et de la carotte, tout simplement. Et si ça peut contribuer à détendre l'atmosphère, et si ça peut contenter l'opinion publique sénégalaise, qui est favorable à Khalifa Sall, d'une part, et à Karim Ouad, d'autre part, pourquoi pas. Seulement, les carottes sont déjà cuites pour ces deux protagonistes, puisque, comme on vient de le soulever, la grâce présidentielle ne confère pas les mêmes droits, ne restaure pas les condamnés dans leurs droits, comme
une amnistie.
Ce serait le cas pour l'amnistie. Donc, voilà. Mais je voudrais me permettre quand même de faire un petit commentaire.
Rapidement, s'il vous plaît.
Là, un angle, un angle éthique, parce que cette coutume de grâce et présidentielle et d'amnistie, appliquée sur des personnalités, alors qu'on y a trop recours, lorsqu'on se souvient aussi que le frère de Macky Sall lui-même a eu quelques embrouilles judiciaires, mais il n'est pas resté en prison, on se pose quand même la question aussi vu par le peuple d'en bas, ces grâces présidentielles distillées pour régler des comptes ou bien arranger ses affaires politiques ne porteraient pas des germes de velléité vexatoire hein, pour le bas peuple qui forcément n'en bénéficie pas toujours de la même attention.
C'est une vraie question.
Personnalités qui sont en compétition. Voilà, parce que, alors, je pose la même question que j'ai posée pour le cas de Tunisie. Quel est le rapport entre la bonne gouvernance et l'autorité, j'allais dire l'indépendance du pouvoir judiciaire? Oui. Est-ce que l'Afrique, à travers sa gouvernance, veut aller vers plus d'autonomie du pouvoir judiciaire ou est-ce qu'on voudrait des présidences, des gouvernances qui continuent de manier l'instrument judiciaire pour faire et défaire les jeux politiques? Là, ça pose quand même un petit problème de démocratie. Hein.
C'est un problème qu'on peut soumettre aux étudiants. Aux étudiants en philosophie morale et politique, puisque vous êtes diplômé en philosophie morale et politique, Alice Adio. Comme quoi ça sert. Hein. Merci beaucoup. On va tout de suite écouter les messages de nos amis sur Internet, sur notre page Facebook. Message recueilli et livré à présent par Didier Ladislas Landau.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, @débat BBC Africa et sur notre page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Dialogue national au Cameroun, Imran Diallo s'interroge sur l'importance de ce dialogue si elle n'aboutit pas à une alternance. Notre internaute de Conakry demande à notre invité si elle croit en une alternance démocratique au Cameroun du vivant de Paul Biya. Joseph Bamilé demande si le dialogue politique offrirait des bons fruits aux Camerounais alors que le président Biya veut s'éterniser au pouvoir. De son côté, Elie Essou veut savoir s'il est possible de trouver la paix dans cette crise dite anglophone sans libérer les détenus politiques. Au sujet de la Tunisie, notre internaute de Cotonou estime que les institutions qui sont chargées d'organiser l'élection sont assez neutres, donc il n'y a pas de menace sur la paix dans ce pays. Sénégal, Abdourahmane Camara salue la décision du président Macky Sall de gracier Khalifa Sall. Pour lui, c'est le Sénégal qui sort gagnant. Et la prochaine étape devra être la loi d'amnestie pour l'ancien maire de Dakar. Bala Moussa Boiro, lui, se demande pourquoi accorder à Khalifa Sall et ses co-détenus une grâce présidentielle au lieu d'une amnestie totale. Merci à Alassane Souleymane Sanogo qui nous a rejoint cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Africa-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Afrique. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous aussi, Didier Ladislas Landau. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Alice Adio, c'est la tradition. Je vous demanderai une conclusion générale en quelques secondes. On voit bien qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de l'alternance démocratique au Cameroun.
Alors, ma réflexion d'ordre général serait que la société civile camerounaise, ça c'est le vœu que nous émettons à l'AFP, que la société civile camerounaise prenne ses responsabilités et engage des initiatives stratégiques allant dans le sens de faire ce que nous soupçonnons que le régime ne peut ou ne veut pas faire relativement à la crise anglophone. Parce que hier, nous parlions de gouvernance et nous étions opposants au régime parce que sur le plan de la gouvernance, c'était un chaos total. D'accord. Ça allait toujours. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un drame. Parce que quand on parle de près de 3000 morts, il s'agit d'un drame. Donc nous mettons de côté nos obédiences idéologiques et partisanes et nous appelons, comme toujours depuis 3 ans, le corps social camerounais à se saisir de ce problème et au besoin d'aller au-devant de la scène vers les amis du Cameroun, notamment l'Union africaine, le Forum africain, composé des anciens chefs d'État, pour plaider pour qu'on aménage un cadre dans lequel éventuellement les séparatistes pourraient échanger avec nous pour dire quelles sont les voies et moyens qu'on peut mettre en place pour un retour à la paix. C'est essentiel.
Merci. Merci Alice Sadio, merci beaucoup. Présidente de l'Alliance des Forces Progressistes, l'AFP, Mouvement Politique Camerounais. Merci à notre confrère Charles Faye, depuis qui est à Dakar, journaliste, chroniqueur au groupe de presse Futur Média, groupe de presse sénégalais. L'émission a été réalisée à Paris par Hugo Vallière, régie technique assurée à Dakar par Abdou Diop, chargé de production Didier Ladislas Lando. Oui, bien sûr, écoutez cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Bon week-end à toutes et à tous.